allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est vous, Frédéric Maury. Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Avec vous, Frédéric, nous recevons Jean-Marie Cour. Bonjour Jean-Marie Cour.
Bonjour.
Jean-Marie Cour, vous êtes polytechnicien, promotion 1956.
Hélas.
On dit X56, pourquoi hélas ?
C'est vieux.
Ça fait 60 ans, effectivement. Et puis ensuite, vous avez fait ce qu'on appelle une école de spécialisation, l'école des ponts et chaussées, pour devenir ingénieur. Et vous vous définissez aujourd'hui comme éco-démographe. Ça veut dire quoi ?
Oui, plus précisément, démo-économiste, si vous voulez bien. Démo-économiste,
c'est-à-dire... Mais ça veut dire quoi ?
Alors, ça veut dire remettre la variable peuplement au cœur de la réflexion sur le développement.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ?
Ce qui n'est absolument pas le cas. Et ce pourquoi je milite depuis donc très très longtemps.
Alors dans la notice biographique que vous nous avez envoyée en amont de cette émission, vous écrivez que vous avez consacré toute votre carrière à la coopération internationale, d'abord au sein de la Caisse des dépôts et consignations, la grande institution financière de l'État français, puis au sein de la Banque mondiale, enfin au service du club du Sahel. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'Afrique alors en pleine phase de décolonisation, donc quand vous terminez vos études dans les années 60?
Oui. Alors d'abord, ce qui m'a poussé dehors, c'est que le poste qu'on m'offrait dans mon ministère de l'équipement, étant un poste d'ingénieur du service ordinaire des routes, ça m'enchantait pas. Donc j'ai pris la tangente dès que possible. Je suis parti au Maroc d'abord pour prétendument faire l'inventaire du domaine skiable, ce qui me plaisait beaucoup. Puis reconstruire Agadir, qui avait été ruiné par un tremblement de terre. Et depuis là, je n'ai plus cessé de voyager. Au Moyen-Orient, j'ai vécu plusieurs années en Iran, où j'ai réussi à mettre en place la discipline d'aménagement du territoire comme discipline de bonne gouvernance. Et de là, très vite, je me suis intéressé au cas de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que j'entendais par Bruxelles des choses qui ne me plaisaient pas du tout sur la manière de prendre ces pays nouvellement indépendants et comment les appuyer. Donc à ce moment-là, pris contact avec le directeur général du développement que je connaissais, qui s'appelait Edgar Pisani, en lui disant « Monsieur Pisani, il ne faut pas raisonner pays par pays, mais dotez-vous d'une vision de l'Afrique, projetez cette vision à un horizon raisonnable, à 20 ans, et vous comprendrez ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui, compte tenu des impératifs du peuplement et de la géographie.
Voilà. » Donc il vous a entendu.
Alors lui, en tant que Pisani, il a accepté de prendre à sa charge cette réflexion, qui est devenue une étude « Images à long terme de l'Afrique au sud du Sahara », qui a été publiée en 84, je crois. Mais il n'en a rien fait. Sa préoccupation étant la sécurité alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire, il se trouve que cette étude n'a strictement servi à rien à l'époque. Anecdote, il l'avait perdu à Bruxelles. Et c'est l'année dernière que quelqu'un de la commission s'est rappelé que ça existait. Ayant complètement perdu de vue cette étude, ils m'ont demandé si j'en avais un exemplaire. Je leur ai envoyé mon exemplaire, le seul qui me restait. Cet exemplaire a été saisi numériquement, intégralement, y compris les grandes cartes de l'Afrique qui permettent de réfléchir. Et voilà, il a fallu donc 30 ans pour qu'ils comprennent qu'il y avait quelque chose d'important.
Alors Jean-Marie Cour, depuis une quinzaine d'années, on comprend que vous avez pris, au vu de votre âge, votre retraite officielle. Vous continuez quand même à travailler. Vous êtes ce qu'on appelle un consultant international. Et puis au cours de cette longue carrière, vous l'avez évoqué, vous avez sillonné l'Afrique, mais aussi le Proche-Orient et l'Amérique latine, je crois. C'est donc un économiste au long cours que nous recevons aujourd'hui. Un économiste qui m'a confié, lors de la préparation de cette émission, qu'il n'avait jamais écrit de livre pour ne pas encombrer les rayonnages des bibliothèques. C'est assez atypique.
C'est vrai, j'ai horreur d'écrire d'abord parce que je ne sais pas écrire. Ensuite, parce que je suis impressionné par l'inflation des ouvrages et la difficulté qu'on a à les stocker quand on déménage, il faut acheter des bibliothèques, etc. Je trouve que beaucoup trop de gens écrivent pour dire n'importe quoi. Et je suis choqué par l'inflation des révérences qui suivent les livres, du nombre de personnes que l'on se croit obligé de citer.
Des révérences ou des références ?
J'appelle ça des révérences, ouais. Faire révérence.
Au cours de cette émission avec Frédéric Maury, Jean-Marie Cour, nous allons donc vous interroger sur les défis que doit relever l'Afrique, le défi du développement, le défi démographique, le défi urbain. Nous parlerons aussi bien sûr des questions migratoires et nous entendrons Anna Sylvestre à Abidjan et un autre économiste que vous connaissez, je crois, Marc Raffineau. On entre dans le vif du sujet avec une première question de Frédéric Maury, Jean-Marie Cour.
Alors, vous n'écrivez pas de livres, mais vous publiez quand même des textes, et puis on vous entend parfois, et il y a une expression qui revient de temps en temps chez vous, et qui est assez intrigante pour nous qui suivons l'économie, c'est que vous ne parlez pas forcément de pays en voie de développement, vous parlez de pays en voie de peuplement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, et est-ce que vous faites une différence entre les deux ?
Évidemment, l'expression pays en voie de développement, ça ne veut rien dire a priori. Qu'est-ce que c'est que le développement ? Difficile à définir. Par contre, le peuplement, oui, c'est facile de raisonner dessus. Qu'est-ce que c'est que le peuplement ? C'est la transformation, non seulement la croissance démographique, mais la redistribution complète, géographique, sociale, socio-économique de la population. Par exemple, le passage d'un milieu diffus à des milieux denses.
Qu'est-ce que c'est qu'un milieu diffus ?
Un milieu diffus, c'est la faible densité de population, hein ? Quand une personne migre du milieu rural vers le milieu urbain, il passe d'un milieu à faible densité à un milieu dont la densité est de l'ordre de 100 fois plus forte. Donc il change complètement de contraintes, de potentialités, de comportement en tant que producteur, consommateur, etc. C'est un phénomène fondamental. Bon, juste un ordre de grandeur. En France, jamais dans l'histoire de la France, la population n'a augmenté de plus de 40% en un siècle, en 100 ans. N'est-ce pas ? Jamais. Or, en Afrique, c'est une multiplication par 12 de la population qui arrive en 100 ans. 1950-2050. Et une multiplication par 60 de la population agglomérée, urbanisée. C'est tellement gros, tellement important. Si on a un peu de bon sens, on se dit, il faut partir de là. Pourquoi on n'en part pas ? Dans le pourquoi je critique l'économie du développement telle qu'officielle et toutes les institutions qui s'en servent. Parce que cette économie du développement a été conçue par des experts, des cervelles de pays déjà développés, déjà peuplés. Le problème avait disparu.
Et vous-même, vous êtes une de ces cervelles ?
Certes, mais j'ai pris conscience, pourquoi ? Par une lecture enfantine, de l'ampleur du problème. Hein ? Si on,
Donc vous avez l'impression que la question du peuplement est plus importante que ce qu'on appelle généralement le développement.
Elle est au cœur. C'est, si on ne rentre pas par là, on ne peut que dire des bêtises. Et c'est ce que je répétais depuis longtemps. Mais ce problème du peuplement, il n'était plus chez nous, en France, en Europe, aux États-Unis, le problème du moment. Rappelez-vous qu'un des premiers présidents des États-Unis, Jefferson, s'est fait élire en écrivant un texte qui s'appelait « On the peopling of the United States ». À l'époque, c'était le
sur
problème.
Sur le peuplement des États-Unis.
On the peopling of the United States. Aujourd'hui, peopling ne veut plus rien dire pour un Américain. Personne ne comprend. Et nous avons, nous, les gens du Nord, commis la grave erreur, irréparable, hein, à bien des égards, de ne pas nous mettre à la place et dans le contexte de ces pays en voie de peuplement, où ce problème du peuplement est au cœur du changement social, de tous les problèmes. Et tant qu'on n'aura pas pris conscience de ça, on a du mal à gérer convenablement nos rapports.
Mais comment se fait-il que ces pays eux-mêmes n'aient pas pris conscience ?
Tout l'appareil institutionnel est fait pour qu'on l'oublie. La formation universitaire.
En Afrique ?
En Afrique, partout, puisque tout est inspiré par les gens du Nord, n'est-ce pas ? Et quand vous mettez une personne qui est bien consciente, là où elle vit, de ses problèmes... De peuplement et de tout ce que ça implique comme opportunité et comme contrainte. À partir du moment où elle fait des études, où elle est diplômée, où elle fait révérence, comme je le dis, à tous ses maîtres à penser, elle finit par se couler dans le moule que nous imposons, nous, gens du Nord. Et il faut sortir de cette idée stupide du développement sans partir de ce phénomène pour progresser. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Si vous me donnez, à un moment donné de cette émission, l'autorisation de citer un papier, j'en aurai pour 3 minutes.
Hein. C'est trop long.
C'est trop long. Alors, trop long. Une minute.
On verra plus tard. Pour l'instant, Frédéric Maury a une question pour vous.
Pour continuer sur cette idée du peuplement, je vais vous parler d'un pays qui est un peu emblématique en Afrique subsaharienne, c'est le Nigeria, qui est un pays dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'il a des difficultés économiques liées à la chute du prix du baril, donc des difficultés financières, des difficultés de finances publiques. Est-ce que pour vous, ça vous paraît être, en tant qu'économiste, le vrai sujet, ou est-ce que le vrai sujet du Nigeria, c'est justement la question du boom démographique et du peuplement ?
Vous voyez, bien sûr qu'il y a des tas de problèmes, mais le peuplement, en général, est une des clés par lesquelles on entre dans la bonne stratégie. Il se trouve qu'au Nigeria, il est assez probable qu'il y ait une surestimation assez considérable de la population totale. Pourquoi ? Parce que le pays est fédéral et que pour obtenir les deniers du centre, du budget fédéral, chaque région, chaque province, chaque État a intérêt à gonfler sa population. On a triché pendant des années.
Le chiffre officiel, c'est 180 millions à peu près, c'est ça ?
Voilà. On a triché pendant des années à cause de la structure fédérale du pays. C'est quand même grave, vous voyez.
Vous pensez que c'est une différence de combien à peu près ?
Au moins 20%, à mon avis.
D'accord, de moins. En fait, moins. Hein. Donc c'est moins peuplé finalement que.
Oui, mais c'est déjà beaucoup, très peuplé, n'est-ce pas ? Incontestablement très peuplé.
OK. Et en termes de peuplement, comment vous voyez évoluer ce pays justement ?
Bah, écoutez, c'est évidemment la grande puissance africaine avec l'Afrique du Sud. Comment je vois évoluer la densification de ces pays est à la fois une source de contraintes formidables dans tous les domaines, y compris environnemental, et aussi une force. Car l'Afrique, en gros, souffre de son sous-peuplement et non de son surpeuplement. Tout opérateur économique est trop loin de ses clients potentiels pour pouvoir être efficace. D'une certaine manière, le Nigeria est très en avance sur les autres en matière de densification.
C'est plutôt plus dense que les autres pays africains.
Voilà. Mmh. Bah oui, il est parti plus tôt. Pour des raisons diverses, il y a eu moins de ponctions par l'esclavage. Toujours est-il que bien des pays comme la Côte d'Ivoire et tous ces pays côtiers étaient sous-peuplés, n'est-ce pas ? Et c'était une des contraintes.
Mais qu'est-ce qui vous inquiète le plus, ou vous intéresse le plus, ou vous semble le plus porteur d'avenir dans le cas nigérian ? C'est la dépendance au pétrole, place importante qu'occupe le pétrole dans l'économie du Nigeria, ou cet essor démographique qui vient...
Écoutez, c'est les deux, bien sûr. Mais bien au-delà des ressources d'exportation, le pétrole, ça fait partie de ces matières premières que l'Afrique exporte. Je mets beaucoup plus l'accent dans mes travaux sur la constitution d'un marché africain intérieur. 1 milliard de consommateurs africains, c'est quelque chose. Donc je trouve qu'on a pendant trop longtemps mis l'accent exclusivement sur la capacité des pays à s'inscrire dans le commerce international, à exporter du pétrole ou du fer ou n'importe quoi, pour payer les importations. La vérité, c'est que c'est vrai, c'est important pour la balance des paiements, mais le plus important, c'est qu'il se crée en ce moment, sous nos yeux, un marché intérieur qui est considérable, considérable, dont le Nigeria va prendre une très grande part, bien sûr. J'ai fait une étude de l'avenir de la bande côtière de l'Afrique de l'Ouest, qui montre un paysage africain qui ressemble beaucoup plus à celui de l'Amérique, des États-Unis, côte Est, que c'est l'image qu'on s'en fait, d'un pays qui exporte des matières premières. Non, il y aura en Afrique, comme partout, les structures industrielles correspondant au marché africain, et pas qu'au pétrole, pas qu'au fer, n'est-ce pas ? Le Nigeria est bien placé, il a des générations d'entrepreneurs qui sont
c'est-à-dire il y aura un New York africain, Philadelphie
africain. Mais oui, pourquoi pas ? Et évidemment que ça va se passer pas partout en Afrique, ça va se passer notamment sur la bande côtière. Pourquoi ?
On a du mal quand même à saisir le lien que vous faites entre cette prévision très optimiste et puis vos critiques au développementisme qui négligerait le côté peuplement.
Écoutez, on a tenu pendant des années et des années, c'est pour ça que je voudrais vous lire René Dumont, un discours invraisemblable disant qu'il y a sururbanisation en Afrique, qu'il faut arrêter l'exode rural, parce qu'avec l'exode rural, on va vers la famine. Des stupidités absolues, n'est-ce pas ? Quand la population d'un continent comme ça, comme je vous le dis, est multipliée par un facteur très élevé en 3 ou 4 générations, évidemment que la population doit changer, et elle change spontanément. Et si elle continue à changer, c'est contre l'avis des experts que nous sommes, qui ont mis des freins partout. Freins à la mobilité géographique, barrières par les frontières nationales, qu'il faut surtout pas toucher, en disant que les migrants sont la source de tous les problèmes en Afrique. en disant que les pauvres qui arrivent dans les villes devraient être chassés. C'est ça, là, le discours qu'on tient.
Vous pensez qu'il faut laisser, ou en tout cas favoriser cette migration ?
Mais évidemment.
Pour quelle raison ?
Prenez l'exemple de la France. Vous croyez que si la France était peuplée comme elle l'était il y a deux siècles, on n'en serait pas au niveau du Burkina Faso d'aujourd'hui ? C'est pas sur le plateau de 1000 vaches qu'on fait un pays moderne.
Mais hein, justement, est-ce que c'est pas parce que le phénomène africain, c'est une urbanisation décuplée, accélérée, qui est pas...
Elle est pas accélérée, elle est à la vitesse logique. Et le pays n'est pas... L'Afrique n'est pas sururbanisée, contrairement à ce qu'on raconte.
Vous pensez qu'elle est pas sururbanisée ?
Pas du tout.
D'accord.
Je l'ai démontré. Chiffre en main.
Pourtant, il y a beaucoup de pauvreté dans ces grandes villes.
Alors, une personne qui migre, en dépit des difficultés que je viens de citer, parce qu'elle a un projet... Celui qui migre, il se dit, à la ville, j'aurai peut-être une meilleure scolarisation pour mes enfants, ou peut-être de meilleurs emplois. Hein, il a un projet. Bien sûr, quand il arrive, il arrive comme un pauvre par rapport à ceux qui sont déjà là. Et c'est tout le problème de ce qu'on appelle l'économie informelle. Tous ces gens qui arrivent en ville, venant de la campagne, arrivent avec un niveau de revenu monétaire au départ qui est très faible. La capacité de la ville à accepter ces migrants, c'est... sa qualité. Si elle est capable de les intégrer en une dizaine d'années, c'est une ville attractive, une ville qui joue son rôle et pas une ville d'apartheid, hein, où on refuse le pauvre. Alors évidemment que les gens qui migrent deviennent des nouveaux pauvres, et évidemment la majeure partie vont réussir leur intégration, c'est-à-dire faire un saut qualitatif et quantitatif en termes de revenus, en passant du milieu rural où le niveau de vie est ce qui doit être compte tenu de l'absence de marché, vers la ville où il y a toutes sortes d'opportunités. Et alors, on ne veut pas regarder ça, donc on dit ce sont des pauvres. Et la lutte contre les pauvres, c'est une des plus grandes absurdités que je connaisse. Hein, il y a en ce moment un énorme projet qui s'appelle « Nos pauvres ».
Qu'est-ce que vous voulez dire par « lutte contre les pauvres » ?
Lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté.
Oui. C'est différent. C'est pas la même chose que la lutte contre les pauvres.
Oui, non, mais la lutte contre la pauvreté, c'est quoi, intrinsèquement ? On a l'idée qu'on va arrêter la pauvreté, ou alors qu'il faut aider les pauvres là où ils sont. Mm-hmm. Au lieu de comprendre que cette migration est indispensable, compte tenu de la croissance démographique, qui est un fait connu.
Vous êtes contre le fait de vouloir fixer les populations
contre,
dans les zones rurales.
Tout ce qui fixe les gens là où ils sont est une aberration. Faciliter la mobilité sociale, géographique, etc., ça, c'est la bonne approche.
Pourtant, vous nous avez dit, il y a quelques minutes, que vous étiez pour le maintien des frontières.
Non, au contraire, les frontières, elles sont héritées de la colonie.
C'était pas clair, alors.
Non, excusez-moi. On met des barrières, les frontières. Moi, je trouve que c'est une erreur des colonisateurs d'avoir atomisé l'Afrique en une cinquantaine de pays. Et l'Afrique a le record du monde de pays enclavés. Hein, bon. Bref, cette balkanisation héritée de l'histoire coloniale est très coûteuse pour l'Afrique elle-même. Bien. Et toutes ces frontières que nous avons inventées, qui ne sont pas du tout naturelles, regardez que la Haute-Volta... était là avant de s'appeler Burkina Faso, s'appelait la Haute Côte d'Ivoire, hein, c'était la même chose. Maintenant, toutes ces frontières qu'on a mises et dont on prétend qu'il vaut mieux ne pas les franchir parce que ça risque de provoquer des désordres, de l'insécurité. Oui. Moi, je dis que c'est le contraire. Il faut que les gens franchissent les frontières. Regardez ce qui se passe dans les pays des Grands Lacs, le Rwanda, Burundi, qui sont invraisemblablement surpeuplés, où on a du fait des religions, en l'occurrence catholiques, interdit l'urbanisation pour éviter l'arrivée des commerçants et de l'islam. Hein. Ces pays sont de véritables bombes. Hein. Et, elles explosent périodiquement. Je l'ai dit, ça fait 25 ans que je le dis. Bon, la surdensification de ces pays est un drame absolu. Hein. Aujourd'hui, il va y avoir bientôt 500 mètres carrés cultivables par agriculteur au Burundi.
Si
vous rendez compte, 500 mètres carrés.
Alors que si les frontières étaient davantage ouvertes, puisque c'est ça, vous plaidez
en
faveur
Il faut les franchir. Une frontière est faite pour être franchie.
Les habitants pourraient circuler plus librement.
Mais bien sûr. Regardez juste à côté de ces pays des Grands Lacs, le Zaïre, la partie orientale du Zaïre, qu'on appelle le Maniema, est vide. Hein. Du temps des Belges, il y avait des chemins de fer, il y avait des routes, il y avait des villes. Plus rien, tout ça, on l'a laissé partir en quenouille. Or, il faut que cette zone de très forte densité de population, Rwanda, Burundi, qui est les pays des Grands Lacs, puisse s'épancher sur des territoires quasi vides. On ne fait rien pour ça.
Jean-Marie Cour, nous poursuivrons cette discussion dans la deuxième partie de cette émission. Nous vous retrouvons après un flash d'actualité dans 3 minutes.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Géopolitique
que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons Jean-Marie Cour, ingénieur et économiste long cours, démo-économiste, dit-il de lui-même, qui sillonne le continent africain depuis plus de 50 ans. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons parlé industrialisation de l'Afrique, nous avons parlé des vies, nous avons parlé un peu de la jeunesse. Dans cette deuxième partie, on voulait d'abord avoir votre avis, Jean-Marie Cour, sur l'état de l'économie ou des économies africaines. Est-ce que la croissance de ces économies est pérenne, selon vous, malgré la chute des cours du pétrole et le ralentissement de l'économie chinoise?
Bon,
ça n'a pas l'air de vous passionner comme
ça
question.
Ça ne me passionne pas parce que je m'intéresse à la longue durée. Et vous, vous me posez une question liée à la crise actuelle, etc., du prix du pétrole. Bon. Et je dis, j'ai l'habitude de dire, le journal ment. Le journalier ne nous dit rien d'intéressant tant qu'on n'a pas compris le long terme. Et sur la longue durée, l'Afrique est un continent en voie de peuplement et donc d'émergence, grâce à la mobilité sociale géographique, en voie de constitution d'un marché africain. Cette Afrique, elle importe et elle exporte, mais globalement, elle constitue un énorme marché. Et donc je ne suis absolument pas inquiet face à l'avenir à long terme, dans la mesure où le reste du monde comprend ce qu'il y a à faire pour contribuer aux investissements de peuplement indispensables.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez donner des exemples précis si vous parlez d'investissements de peuplement?
Oui, alors qu'est-ce que c'est que les investissements de peuplement? C'est évidemment beaucoup d'infrastructures. Il faut savoir que le trafic de ville à ville est multiplié par 10 tous les 20 ans. Et tant qu'on aura le même réseau à peu près de routes secondaires qu'il y a 20 ans, on sait bien qu'il y a un déficit colossal. C'est aussi les infrastructures urbaines, les équipements urbains élémentaires, qui sont des rues à peu près franchissables, des trottoirs sur lesquels on peut échanger, faire du petit commerce et toutes sortes de choses. Donc ces investissements de peuplement, je les ai définis et chiffrés. Ils représentent chaque année un montant de l'ordre de 10 ou 20 dollars par habitant. Et comme on n'a pas fait pendant 20 ans ou 30 ans ce qu'il aurait fallu faire, parce qu'on a inventé toutes sortes de pendules au lieu de se préoccuper de l'infrastructure,
mais la multiplication des initiatives. Ça a changé maintenant depuis quelques années, on entend parler que de ça,
donc,
des infrastructures.
Il y a de plus en plus d'initiatives. Nos pour, c'en est une. Le genre, les États fragiles et tout ce pataquès. L'investissement en infrastructure, Dieu merci, les Chinois sont venus pour en faire, réaliser des projets que les ingénieurs avaient dessinés depuis fort longtemps et qu'on a toujours différé. Bon, il y a un retard considérable. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi les Africains ne le financent pas eux-mêmes? Pour une raison simple. C'est que, d'abord, il y a toutes sortes de mécanismes de financement que nous avons utilisés chez nous et qui sont plus autorisés, comme l'esclavage, la corvée, etc. Tout ça, on dit aujourd'hui, c'est pas possible. C'est inimaginable de rétablir la corvée, ce qui est complètement stupide. Bien.
Ah bon, pourquoi?
Parce que ça n'est pas conforme à l'éthique d'aujourd'hui. Vous connaissez beaucoup de gens
oui,
qui défendent...
Vous défendez la corvée, l'esclavage?
Ben bien, je défends la corvée, bien sûr. Mais je sais que nous sommes servis de ces méthodes. Aujourd'hui, on interdit toutes sortes de choses. Par ailleurs, on impose des normes de qualité et autres qui sont totalement aberrantes par rapport au contexte, n'est-ce pas? Et c'est parce qu'on copie, on impose aux autres notre modèle de riche qu'il y a tant de problèmes. C'est une des raisons.
Bon. Mais vous défendez l'esclavage?
Je ne défends pas l'esclavage, bien sûr, mais je défends la corvée. Bon. Et je défends aussi, dans la bonne gestion de la monnaie, je défends l'idée qu'il faut créer une seconde monnaie d'usage local, comme traditionnellement en Afrique, il y avait plusieurs monnaies, il y en avait trois ou quatre, dont une pour les échanges très locaux, avec l'idée que la monnaie doit être vertueuse, rare, etc. Cette monnaie, elle ne percole jamais très loin de la capitale, et dans les villes secondaires, à 200 km, il n'y a plus de monnaie. Donc il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus rien. Okay? Alors ça, je défends l'idée que à la vitesse où se fait le processus de peuplement, que nous devons accepter comme un fait, Il est hors de question que l'Afrique dans son ensemble autofinance les investissements de peuplement au rythme où il est nécessaire de les faire. Par conséquent, il y a besoin de transferts du Nord, des pays déjà peuplés, vers les pays en peuplement. Et évidemment, ces transferts, qu'on arrête avec ces idées de remboursement, etc., ce sont des transferts définitifs. Point.
Ok ? Ce sont des dons, ça que vous voulez dire. Des dons, pas de la dette. C'est ça que vous dites ?
Mais c'est pas des dons.
C'est quoi, alors ?
Parce que les dons, oui, si vous voulez des dons, c'est un transfert. Les dons, c'est, on a l'impression qu'on fait une œuvre de charité. C'est ridicule. Le peuplement de la planète, c'est un problème planétaire. Bon, nous avons résolu ce problème chez nous, les États-Unis aussi l'ont fait de leur côté, hein, avec des méthodes qui sont plus autorisées. Hein. Sachez qu'aux États-Unis, l'urbanisation du Middle West s'est faite systématiquement en recourant à des emprunts non remboursés par les et donc avec mise en faillite d'États ou de counties. Aujourd'hui, vous interdisez absolument à un maire de dépenser plus que son budget, ce qui est, vous voyez, toutes ces contraintes font.
La contrainte de la bonne gestion, par exemple, des 20 dernières années, celle qui a été poussée notamment par les bailleurs de fonds, c'est-à-dire d'avoir une bonne gestion. Attendez, laissez-moi terminer. Une saine gestion des finances publiques, etc. Vous pensez que c'est une erreur ?
La bonne gouvernance.
Bien sûr que tous ceux qui piquent dans la caisse sont fautifs. Bien sûr.
Non, mais j'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de la saine gestion des finances publiques.
Mais justement, la contrainte budgétaire est d'une certaine manière à respecter, mais dans un environnement et un cadre de compréhension des phénomènes. S'il y a un besoin d'investissement de peuplement, on va pas dire on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de ressources. On crée la ressource en face du besoin.
Et comment vous la créez, la ressource ?
Eh bien, justement, par plusieurs choses. La première, c'est ce que j'appelle les transferts du pays déjà peuplé vers les pays en voie de peuplement, un transfert définitif, dont serions d'ailleurs largement bénéficiaires, si nous avons en face de nous, effectivement, une Afrique dynamique.
Mais ça, c'est très banal, c'est ce que tous les hommes politiques disent, il faut faire du co-développement, aider les pays africains à se développer pour éviter les...
Alors, dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi l'aide publique au développement est dans cet état lamentable de quasi-disparition. Hein, le renouvellement des accords européens, Union européenne, pays ACP, qui va bientôt venir. Moi, j'ai fait des tas de propositions, hein, pour une réforme en profondeur de cette aide, qui est dispersée dans un tas de petites choses qui ne servent à rien. Je ne sais pas combien d'études, vraisemblablement compliquées pour rien, alors qu'il y a presque rien qui va en infrastructure. Vous comprenez ?
Je vous arrête sur ce mot parce que on va écouter Anna Sylvestre, qui est notre correspondante à Abidjan et qui détaille, malgré ce que vous dites, les nombreuses infrastructures qui ont été créées et développées ces dernières années en Côte d'Ivoire, on l'écoute.
Il est immédiatement devenu l'un des symboles du renouveau d'Abidjan. Imaginé il y a 20 ans, le troisième pont de la capitale économique a finalement été inauguré en décembre 2014. Au total, le projet aura coûté un peu plus de 308 millions d'euros. Il sera surtout devenu la vitrine de la politique de grands travaux menée depuis 2011 par le gouvernement d'Alassane Ouattara. Hausse de l'activité, création d'emplois, meilleure attractivité pour les investisseurs, les autorités défendent leur choix et pour convaincre, avancent les chiffres de la croissance ivoirienne. Plus de 8% en moyenne depuis 5 ans, une des plus importantes au monde. Partout, on creuse, on construit, deux autoroutes ont notamment vu le jour, celle reliant Abidjan à Yamoussoukro, la capitale, l'autre suivant l'océan pour atteindre Grand Bassam. À terme, ce corridor a l'ambition de rallier Lagos au Nigeria. Depuis 2011, un peu plus d'un milliard d'euros aura été dépensé par l'État pour les infrastructures routières. Imaginez seulement, un chemin qui partirait de Libreville, suivrait l'Équateur jusqu'à Nairobi, traverserait l'océan Indien, Singapour, le Pacifique et s'arrêterait enfin sur la côte brésilienne. Cela ferait presque un tour du monde, 35 000 km de routes rénovées ou construites en Côte d'Ivoire ces 5 dernières années, c'est le chiffre avancé par les autorités. Une performance qui cache néanmoins les fortes disparités entre la capitale économique et le reste du pays. Et entre nids de poules et terribles embouteillages, n'empêche toujours pas les 4,5 millions d'Abidjanais d'avancer bien souvent au ralenti.
Frédéric Maury, une question ?
Alors ces investissements massifs qui ont été faits en Côte d'Ivoire dans les infrastructures dont on vient d'entendre parler, est-ce que pour vous c'est ça le modèle à suivre ? C'est ces investissements-là ?
Bon, mon modèle à suivre, c'est continuer l'œuvre du temps d'Oufouette. Le temps d'Oufouette, il y avait une direction générale des grands travaux, très bien structurée, et qui anticipait les besoins, faisait les projets, se débrouillait pour trouver le financement et exécutait. Ensuite, l'après-oufouettisme a été très mal géré. Donc la Côte d'Ivoire est tombée en quenouille, c'est vrai, pour des tas de raisons. Et maintenant, on reprend le rythme. Dieu merci, on reprend le rythme. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays parmi d'autres. L'exemple ivoirien est à suivre, bien sûr. Mais on aurait mieux fait d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la période difficile de la transition après Oufouette, plutôt que de lui couper les vivres sous prétexte qu'elle était plus bien gouvernée. Vous voyez, c'est ça, on a. C'était un pays d'immigration, traditionnellement, en provenance du Sahel. Il aurait fallu que nous fassions tout pour lui éviter de sombrer, pour éviter le rejet de l'étranger, ce que malheureusement on a laissé faire. Donc c'est au moment où le pays avait des difficultés qu'il fallait qu'on l'aide encore plus. Eh bien, on ne l'a pas fait. Par manque de vision.
Vous dites que vous aimez vous projeter à long terme et que finalement les questions sur le court terme, sur l'économie chinoise, tout ça, ça vous paraît pas très important par rapport à ce qui va se passer à long terme. Mais si on regarde à long terme, justement, il y a une donnée qui est importante, c'est la jeunesse de l'Afrique. C'est-à-dire qu'une énorme partie de la population africaine est jeune. Sauf qu'il n'y a pas d'emploi en Afrique, on est d'accord. Donc est-ce que ce boom démographique, ce boom de la jeunesse, est-ce que c'est pas une bombe à retardement absolument terrifiante dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans qui viennent?
Bien, ah ben oui, vous écoutez trop les leaders d'opinion, à mon sens. S'il y a toute une jeunesse africaine, vous dites qu'il n'y a pas d'emploi. C'est faux. Mais il y a les emplois réels, qui sont ceux de l'économie populaire, qu'on appelle informels parce que ça ne rentre pas dans le cadre des modèles, hein, c'est là que se créent beaucoup d'emplois, que se génère une jeunesse entrepreneuriale, dans des tas de métiers qui correspondent en termes de productivité, de revenus, d'investissement, au contexte local qui est véritablement africain. C'est vrai que l'Afrique, à côté de ce secteur dit populaire ou informel, n'a pas un secteur moderne à la dimension de ce qu'il devrait être, mais c'est faux de dire qu'il n'y a pas de création d'emplois.
D'accord.
Il faut qu'on regarde cette économie populaire.
Est-ce que cet emploi informel, il vous paraît aussi valable que l'emploi formel?
Mais bien entendu, il est valable puisqu'il est. Il existe, c'est ça la réalité africaine, c'est pas son secteur moderne exportateur. La réalité africaine, c'est ces milliers de petites entreprises, micro-entreprises ou gigantesques entreprises de commerce et autres, qui se font spontanément, qui ne sont pas reconnues, elles sont d'ailleurs très mal répertoriées dans les...
Hein, dans les statistiques, vous voulez dire que les statistiques africaines...
Bon, elles valent rien les statistiques, hein, il faut le reconnaître. Hein. Regardez, songez que le capital productif de ces secteurs informels, on dit informel, n'est pas considéré comme de l'accumulation de capital dans les comptes nationaux. Hein ? Qu'est-ce que c'est que le capital du secteur dit informel ? C'est le capital des rues, les trottoirs, indispensable, c'est du capital collectif. C'est l'habitat dans lequel il y a, à la conjonction de la fonction résidentielle et de la fonction micro-industrie ou micro-entreprise, tout ce capital-là, figurez-vous, qui ne figure pas dans l'accumulation de capital. Toute l'épargne qui est investie dans la création de cette entreprise du secteur dit informel sont absentes des statistiques. On raconte n'importe quoi. Alors, il y a du chômage, bien sûr, dans le secteur moderne. Il y a des diplômés qui perdent leur emploi, etc. Mais le secteur dit informel, ne parlez pas de chômage, il n'y en a pas.
L'autre point dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a un autre sujet qui est inquiétant, c'est au-delà de la jeunesse, c'est l'augmentation de la population. C'est-à-dire il y a des pays comme le Niger où on projette des populations à 70 millions d'habitants d'ici, je crois, une cinquantaine d'années à peu près. Est-ce que ça vous paraît être absolument très inquiétant ?
La croissance démographique est un fait. Quand je disais que la population se multiplie par 12, un facteur 12, entre 1950 et 2050, on le savait en 1950. Qu'on ne me parle pas d'explosion démographique. Ça fait 80 ans qu'on sait ce qui se passe.
Je vous pose une question sur aujourd'hui. Là.
Deuxièmement,
vous ne me parlez pas de ce qui se passe depuis 80
ans. Et puisque la population croît, on en prend acte.
Donc on en prend acte, et qu'est-ce qu'on fait?
Alors qu'est-ce qu'on fait? Lisez les papiers que je fabrique. Hein.
Non, mais tout le monde ne peut pas les lire.
On est à la radio, donc on va répondre aux questions, ce sera mieux.
Il n'y aura jamais le chiffre de population que vous dites au Niger. Pourquoi?
Okay. C'est pas que je dis, non, c'est une prévision officielle des Nations Unies. Hein. C'est pas moi, je ne l'ai pas inventé dans mon...
Vous ne l'avez pas inventé, okay. Bien sûr. Mais toutes ces prévisions des Nations Unies sont faites à migration zéro. Uh-huh. Bon. C'est une absurdité intellectuelle, okay. Dans un continent comme cela, qui est atomisé en une cinquantaine d'États, comme je vous le disais, hein, de dire qu'on va projeter la population pays par pays. C'est la seule chose que peuvent faire les Nations Unies de manière politiquement correcte. Elles se refusent à imaginer des migrations. C'est parce qu'il y aura migration qu'il y aura peuplement correct.
Donc sur ces 70 millions d'habitants au Niger, typiquement, il y en aura une grosse partie qui seront ailleurs.
Ils seront ailleurs.
Au Niger, sur la bande côtière, j'imagine.
Par exemple.
Pourquoi, par exemple?
Vous pensez que ça peut aller encore ailleurs, hein? Ouais. Il y a des, vous savez, il y a des Nigériens en Afrique du Sud, hein. J'en ai rencontré.
Mmh. Oui, il y a des Congolais, il y a beaucoup de gens, mais il y a quand même une petite minorité qui migre en ce moment. Une toute petite minorité. Qu'est-ce qui fera que ce mouvement migratoire va s'amplifier? C'est ce peuplement auquel vous consacrez votre...
Alors, le mouvement migratoire, il est très mal suivi. Il va s'amplifier, à mon sens. Et la crainte de mon ami Mikhaïlov, hein, dans son ouvrage « Afghanistan », hein, de, voyant le Sahel exploser, etc., vient du fait que, alors que pendant les trois décennies, le poids du Sahel dans la population totale de l'Afrique de l'Ouest n'avait cessé de décroître grâce aux migrations spontanées
vers la Côte d'Ivoire,
par la population, vers, ouais, par exemple, la Côte d'Ivoire, hein, eh bien, c'est arrêté pour des tas de raisons, en partie par notre faute, par cette attitude anti-migratoire que nous inspirons à tous les chefs d'État africains, hein, eh bien, il faut, si cette tendance-là n'est pas renversée, bien sûr, Mikhaïlov aura raison de dire que le Sahel sera surpeuplé. Mmh. Mais Dieu merci, il faut faire confiance à la raison des personnes, elles vont continuer à migrer pour peu qu'on les laisse migrer ou qu'on ne mette pas de barrière à la migration.
Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, qui disait récemment qu'on donne trop d'attention à la migration des Africains vers l'Europe, ou en tout cas hors d'Afrique, et pas assez à la migration africaine à l'intérieur de l'Afrique, qui est, d'après lui, beaucoup plus importante en nombre que celle vers l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. On voit les migrants parce qu'on les craint chez nous. Alors, mais la plupart de ceux qui bougent, ils bougent à l'intérieur de l'Afrique. Non seulement à l'intérieur de l'Afrique, mais à l'intérieur de leur pays. Et notamment entre ville et campagne, hein, ou entre ville et ville, ou entre zones enclavées et zones de marché, hein. Et la plupart des gens qui bougent, bougent en Afrique. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'ils bougent vers le marché.
Oui, ce que vous dites, c'est que c'est souhaitable. C'est qu'il ne faut pas l'empêcher.
Évidemment, c'est souhaitable.
Mais l'un des problèmes, c'est quand même la production agricole en Afrique. On voit beaucoup de grandes entreprises internationales investir dans ce qu'on appelle l'agro-business. Par ailleurs, il y a quelque temps, il y a eu des campagnes internationales pour soutenir la petite agriculture familiale. On écoute sur ce sujet et sur le développement de l'agriculture un de vos collègues économistes, Marc Raffineau.
Dans un certain nombre de pays, là je parle de l'Afrique de l'Ouest, l'ensemble de la superficie cultivable va être utilisée en totalité. Parce qu'il y a quelque chose qui est remarquable en Afrique de l'Ouest, c'est que malgré l'exode rural, la population rurale croît également. Et donc finalement, tout l'équilibre de la petite production rurale en Afrique de l'Ouest, c'est une agriculture qui repose sur une très faible productivité, sur de la main-d'œuvre essentiellement, l'absence d'engrais, et donc qui va atteindre ses limites. Quand toute la terre qui est disponible actuellement sera utilisée en totalité, ça va arriver dans les 15 ans qui viennent au Burkina Faso, par exemple. Bon, ben, à ce moment-là, le modèle traditionnel d'expansion de l'agriculture familiale africaine va devoir changer de braquet. Ou alors, là, il va y avoir vraiment des problèmes.
Est-ce qu'il faut aider la petite agriculture familiale, Jean-Marie Cour?
Bon, alors ça, c'est poser les problèmes dans des termes qui plaisent à l'opinion publique. La vérité, c'est que cette petite agriculture familiale, elle est en pleine transformation. Pas à cause des projets agricoles, pas à cause des progrès technologiques, pas à cause des conseils donnés par les experts étrangers, mais à cause du bon sens des paysans qui se pressent vers le marché. Ils vont pas là où sont les meilleurs sols, ils vont là où ils ont des chances de trouver un client pour la production. Et jusqu'à présent, quoi, contrairement à ce qu'on pense, la production marchande, au-delà des besoins locaux, mise en marché par agriculteurs, a augmenté à un rythme très très élevé. Très élevé. Ce qui explique qu'aujourd'hui, l'Afrique, contrairement à ce qu'on pense, ne dépend pas du reste du monde pour son alimentation. Elle a une balance en termes de calories, de protéines, à peu près équilibrée avec le reste du monde, import-export. Si on y inclut les cultures d'exportation.
Et oui, mais vous ne pouvez pas comparer l'impact alimentaire du cacao et du riz.
Non, mais il n'y a pas beaucoup de calories dans le cacao, figurez-vous. Hein, bon, il n'y en a même pas du tout. L'Afrique importe moins de denrées alimentaires que l'Égypte, beaucoup moins peuplée. Elle importe en net, hein, moins que l'Italie, qui est beaucoup moins peuplée, l'Afrique de l'Ouest.
On se donne une image fausse de la réalité. La vérité, c'est que cette agriculture dite familiale, elle évolue considérablement grâce au marché intérieur. Parce que ces agriculteurs, ils sont pas fous. Si quelqu'un vient acheter les tubercules qui sont extraits du champ au bord de la route, il en produira. Si personne ne passe pour les acheter, il n'en produira pas. Et si, donc, avec l'urbanisation, avec le rapprochement des producteurs des consommateurs, hein, il y a une transformation que nous ne voulons pas voir.
Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas la voir?
Mais parce que, à cause de ce que j'appelais les leaders d'opinion, dont je te donnais comme exemple, Monsieur René Dumont.
Allez-y.
Écoutez, voilà ce qu'il dit, René Dumont. J'accuse certains experts, comme Jean-Marie Cour, de n'avoir absolument rien compris au développement africain. Ce Rostov Bis signe une étude fort coûteuse, l'étude Image à long terme de l'Afrique, où l'on nie l'urbanisation est un facteur favorable à l'autosuffisance alimentaire à terme. Voilà. Eh bien ça, c'est ancré dans les esprits, grâce à ces leaders d'opinion, ils me l'ont répété, ancré dans les esprits des institutions pendant très longtemps. Maintenant, les gens n'osent plus l'avouer officiellement, parce que c'est tellement ridicule, hein, de ne pas le voir, qu'ils n'osent plus le dire, mais ils le pensent. Et moi, j'aimerais quand même vous citer un autre exemple tout à fait criant de cette approche. Hein. Plus récemment, l'Agence française de développement a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les défis agricoles africains », hein, publié en 2006. On m'a demandé d'y contribuer, d'une contribution sur peuplement, urbanisation et développement rural en Afrique subsaharienne, un cadre d'analyse. Eh bien, cette contribution a été rayée de la table des matières. J'ai insisté, donc, l'AFD, après bien des citations...
Pourquoi
a-t-elle été réveillée? Oui. Parce qu'elle n'était pas dans le dogme. Elle n'était pas conforme au dogme.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous disiez?
Je disais que s'il y a progrès de l'agriculture, c'est parce que c'est pas à cause des projets de la AFD ou des bailleurs de fonds, c'est à cause du bon sens des consommateurs et des producteurs.
C'est ça que vous dites.
Grâce
c'est-à-dire
à l'urbanisation,
à la création d'un marché, l'urbain.
À l'articulation ville-campagne. Hein. Alors l'AFD a consenti à publier cette contribution. Est-ce que tenez-vous bien, mais en veillant à ce qu'elle reste inaccessible aux personnes intéressées. Il faut de la chance ou beaucoup de persévérance pour la trouver à la page 357 d'un numéro spécial de la revue Afrique contemporaine consacré à la réforme des finances publiques africaines et à l'allègement de la dette au milieu d'une série d'articles annexes entre celui consacré aux chasseurs du Mali.
Oui.
Hein, voyez. Donc, oui. On cache. Et je dis, ça, c'est une forme de censure.
De l'Agence française de développement, l'AFD.
Mais de tout le monde, y compris l'Agence française de développement, y compris le centre de développement de l'OCDE.
Okay? Donc, vous êtes une victime.
Je ne suis pas, je ne m'inscris pas comme une victime. Hein? Je m'inscris en faux contre le poids de l'opinion des experts, hein, qui dominent. Voyez? Et je pense qu'il y a une crainte vis-à-vis de ce changement de paradigme, d'une même nature que la crainte que nous avons, nous, opinion publique, pour les nouvelles technologies, nanotechnologies, etc. La crainte de l'inconnu. S'il faut réécrire tous les modèles, etc., avec un nouveau cadre d'analyse que j'appelle démo économique spatialisé, il faut y aller. Il faut pas avoir la crainte. Mais si on ne veut pas, c'est pourquoi? Parce que le système, l'expertise internationale, elle forme un milieu qui se connaît, qui est connecté, qui se fait révérence, comme je le disais, hein, et on a peur d'avouer qu'on s'est trompé, ou de l'inconnu, ou de vexer tous ceux qu'on a encensés dans le passé. Et je dis que c'est de même nature. La difficulté de changer de paradigme, c'est pas de ma faute, c'est naturel à l'homme. On a toujours peur de l'inconnu. Et là, il y a une inconnue majeure, c'est qu'il faut tout réécrire. Voilà.
On approche de la fin de l'émission. Une question de Frédéric Maury.
Oui, vous parliez tout à l'heure du livre de Serge Mikhaïlov, donc Afrikanistan. Est-ce que vous partagez son inquiétude sur le risque terroriste et le basculement notamment du Sahel, hein. On a vu avec les attentats à Bamako, à Ouagadougou, la terreur aussi, la crainte islamiste au Sénégal. Est-ce que vous craignez aussi ce basculement vers le terrorisme de cette zone si rien n'est fait et si les frontières ne sont pas davantage ouvertes, comme vous disiez tout à l'heure?
Bien sûr que je le crains, bien sûr. Bien sûr, ben voilà, il faut prendre le problème à la clé. Je pense qu'une partie de difficulté vient de 30 ans d'erreurs de stratégie.
Mais comment est-ce que vous expliquez que le discours que vous portez, alors vous accusez les leaders d'opinion, mais c'est peut-être vous qui vous trompez ?
Je ne peux l'exclure. Bon, premièrement, je voudrais vous dire que j'ai 78 ans. J'ai une expérience longue de plusieurs continents, j'ai réfléchi, etc. Je voudrais vous dire encore une chose, je ne suis pas gâteux, pas encore.
Hein.
Je suis certainement têtu, ça c'est vrai. Hein. Et j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, et après tout, vous pourriez dire, mais foutez-nous la paix avec tout ça, occupez-vous de vos petits-enfants. C'est vrai, vous pourriez le dire. Mais je me donne encore 4 ou 5 ans pour dire ce que je pense. Parce que j'ai constaté que ce que je disais dans ces études prospectives qui ont 30 ans d'âge était vrai. Je l'ai dit et je le répétais avec une étude faite pour la Banque mondiale West Africa Development Study. C'était vrai. Et l'expérience le prouve. L'OCDE ne veut pas le voir aujourd'hui, elle le verra dans 10 ans. Vous comprenez? Il y a un décalage de 10 à 20 ans entre ce que je raconte et la prise de conscience. Voilà.
Donc vous êtes un précurseur?
Je crois. Et c'est toujours dangereux d'être précurseur, d'être en avance sur son temps. C'est très possible. Je ne suis peut-être pas le seul à dire ce que je dis, mais c'est vrai que je le dis avec beaucoup de force.
Ça s'entend. Merci Jean-Marie Court. Ça aura été le mot de la fin de cette émission qui était réalisée par Guillaume Munier pour la partie radio, et puis Romain Ferré, Dominique Fian, Christophe Valette étaient derrière les caméras. Merci à vous Frédéric Maury pour Jeune Afrique. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.